Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
C'est pour moi.
Orange juice with that ice, madame. Thank you.
L'été comme jamais.
J'arrête. J'arrête d'écrire une liste de courses sur un post-it que je perds avant même d'arriver au supermarché. J'arrête d'enregistrer cette même liste sur mon portable que j'oublie de toute façon de regarder une fois dans le magasin. J'oublie et je m'en fous. Je m'autorise à oublier ces moments du quotidien. Je me moque de ne pas retrouver ce mot que j'ai au bout de la langue, même si ça m'agace. J'oublie tout et c'est bien. Non, je n'oublie pas tout. Je fais le tri, parce que je ne veux pas oublier la voix de l'être aimé, l'histoire de mes grands-parents, cette poésie de Prévert que j'aime tant, ce morceau de musique qui m'apaise et ces souvenirs de voyage dans un pays lointain. Je ne veux pas oublier non plus ces événements qui rythment le monde et jalonnent ma vie. Un air de violon par Rostropovitch au pied du mur de Berlin, notre sidération devant un écran le 11 septembre 2001, mon émotion un soir de 14 juillet sur la promenade des Anglais. Je ne veux pas oublier des visages, ceux des femmes afghanes ou des enfants syriens. Je ne veux encore moins oublier la poésie du monde, ces paysages dont la lumière m'enrichit et que je photographie mentalement. Capturer des moments pour l'éternité et les ressasser, se souvenir des belles choses. L'oubli est un mot que nous souhaiterions parfois oublier, mais il est là, il bouscule notre système de pensée. Comment? À quel moment? Que se passe-t-il dans notre tête? Est-ce qu'écrire une histoire ou l'histoire nous permet de lutter contre cet oubli? Et vous, qu'aimeriez-vous ne jamais oublier?
Eva Rock sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'été comme jamais sur France Inter. Trois invités ce matin pour explorer les mécaniques de l'oubli. Bonjour Annette Vivorca.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes historienne, grande spécialiste de l'histoire des Juifs, de la Shoah et du communisme notamment. Votre dernier livre, Mes années chinoises, est paru chez Stock en février dernier et il est à mon sens empreint de cette notion de l'oubli. On va y revenir évidemment avec vous. En studio également, Philippe Forest. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, auteur de L'oubli, paru en janvier 2018 chez Gallimard. Le livre est publié dans la catégorie romans et récits. C'est un peu plus que cela, on va en parler évidemment ensemble. Et puis notre troisième invité est en duplex depuis Cherbourg, grâce à nos confrères de France Bleu Cotentin. Bonjour Francis Eustache.
Bonjour.
Vous êtes neuropsychologue spécialisé dans l'étude de la mémoire et de ses troubles. Une première question à vous trois, quelle est la dernière chose que vous avez oubliée? Alors que ce soit un oubli du quotidien, comme cette fameuse liste de courses, ou peut-être un souvenir que quelqu'un vous a remémoré, Philippe Forest. Il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit?
Hier, grâce à vous ou à cause de vous, j'ai réalisé que j'avais oublié l'oubli. Je veux dire, j'avais oublié
votre livre.
L'essentiel du livre que j'ai écrit il y a maintenant 3 ou 4 ans. Je ne me relis jamais. Et puis, le fait d'avoir écrit d'autres livres depuis fait que les livres les plus récents prennent la place des plus anciens. Donc, à cause de vous ou grâce à vous, j'ai dû relire l'oubli et j'ai réalisé que j'avais oublié ce livre.
Mais j'espère que c'est grâce. Francis Eustache, est-ce que quand on est neuropsychologue, on se souvient de la dernière chose qu'on a oubliée?
Bah écoutez, vous avez affaire à un neuropsychologue en vacances, donc je pense que j'ai tout oublié. Mais grâce à vous, j'espère retrouver le fil.
Annette Vivorca?
J'ai oublié où j'avais rangé avant les vacances mon sac à main.
Oui.
Si bien que j'ai prolongé ma tenue de vacances et que je suis venu avec le sac à dos.
Mais c'est bien aussi.
C'est parfait.
Est-ce que vous vous autorisez à oublier?
Que je m'y autorise ou non, l'oubli est là. Il y a plusieurs types d'oubli. Il y a ces oublis qui sont gênants et agaçants. D'autant que plus on avance en âge, plus on a ce spectre de l'Alzheimer. On se dit, oh là là, est-ce que c'est pas un début? Et puis, il y a les oublis parce que les choses ne sont pas réactivées. Et il suffit qu'on les réactive, comme l'oubli de Philippe Forest, pour que les choses reviennent. Donc je crois qu'il y a beaucoup de types d'oubli et que, de toutes les façons, l'oubli est nécessaire. Je voudrais pas...
Mais oui.
Je voudrais pas... évoquer le funeste de Borges, oui. Qui est vraiment... les gens hypermnésiques sont encombrés par leur mémoire. Et on a besoin, pour penser, d'avoir un petit peu de vide. Donc un peu d'oubli.
Mais oui, Francis Eustache, est-ce que vous pouvez répondre à Annette Vivorca justement sur cette notion de l'oubli dans notre cerveau physiquement? Qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs formes d'oubli. Il y a l'oubli du quotidien et puis les oublis qui sont parfois liés aussi à des maladies.
Oui, comme ça vient d'être dit, il y a beaucoup de formes d'oubli. L'oubli peut-être auquel on pense le plus sérieux, hein, c'est l'oubli pathologique, sont les maladies de la mémoire, avec un oubli qui peut être un oubli à mesure, hein, on l'appelle comme ça, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne peuvent pas former de nouveaux souvenirs, ils peuvent répéter l'information pendant quelques secondes, quelques minutes, et puis l'information disparaît. Et puis au contraire, oublier le passé, avec parfois des oublis pratiquement totaux de sa vie, même oui. de qui on est. Donc il y a cet oubli pathologique, puis il y a l'oubli qui nous accompagne, qui accompagne la mémoire, qui est une sorte de partenaire de la mémoire, qui est indispensable pour former des souvenirs cohérents et une pensée cohérente, une identité cohérente. Donc là, c'est beaucoup plus subtil, en quelque sorte. Ça montre la complexité de la mémoire humaine. Et puis, peut-être dernier exemple sur ce continuum, c'est l'oubli qui nous aide à supprimer des choses qui sont pénibles, qui sont désagréables. Alors le terme de suppression est un peu fort, mais en tout cas, mettre ces souvenirs douloureux ou ces représentations douloureuses, ce sont pas forcément des souvenirs, à distance, les mettre en silence en quelque sorte, comme l'écrivait Ricoeur. Hein. Donc voilà ces trois grands types d'oubli qui correspondent bien sûr dans notre cerveau, on connaît évidemment pas tout, qui correspondent à des moments différents de fonctionnement du cerveau, à des structures qui sont un peu les mêmes, mais disons que c'est un réseau qui va s'activer, se déactiver ou qui va être modifié ou qui va mal fonctionner en cas de pathologie. Donc on connaît ces circuits depuis pas mal de temps via la pathologie. La pathologie nous a appris beaucoup.
Mais c'est extrêmement complexe parce que quand on lit vos ouvrages, Francis Eustache, qui sont pourtant très pédagogiques et voilà faciles à lire pour tous les gens qui s'intéressent à cette question, on s'aperçoit les réseaux de la mémoire, ces mécanismes de l'oubli, c'est extrêmement complexe. On a l'impression que c'est un réseau avec des milliers de connexions qui se font ou qui ne se font pas.
La mémoire est en soi une fonction extrêmement complexe. Peut-être que l'univers est plus complexe que la mémoire, mais sinon je ne connais pas de fonction plus complexe. Je parle bien de la mémoire d'un être vivant.
Oui, oui, oui.
Je parle pas des mémoires numériques qui correspondent à d'autres complexités. Mais la mémoire d'un être vivant, c'est une mémoire qui nous accompagne, qui est une mémoire qui nous permet d'être disponible, comme en ce moment précis, mais d'être disponible également quand on sortira du studio, quand on donnera des coups de téléphone, etc. Donc cette mémoire, nous la sollicitons. Cette mémoire, elle nous permet d'enregistrer des informations nouvelles, et puis elle nous permet également d'évacuer des informations qui ne sont pas nécessaires. Donc c'est l'image effectivement de Funès, de l'hypermnésie, qui est une pathologie très très rare, hein, mais qui est une pathologie évidemment très 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 impressionnante. Donc on voit bien là aussi par le truchement de la pathologie que l'oubli est nécessaire pour former une mémoire efficace. Enfin efficace, je veux dire pas forcément être un champion de mémoire, mais avoir une mémoire qui nous permet de vivre notre vie au quotidien, de nous construire, d'évoluer au fil du temps, de rester adapté au monde autour de nous. Ça, c'est un point qui est très important. Parce que moi, je m'exprime en tant que neuropsychologue, plus de spécialiste de mémoire individuelle, de mémoire d'un individu.
On va parler
mais,
des mémoires collectives.
Mais bien entendu, le lien avec la mémoire collective, avec les autres, est très important. Et la mémoire, elle se construit beaucoup avec les autres ou en référence aux autres.
On va y revenir sur cette notion de mémoire collective au fil de cette émission. Philippe Forest, est-ce que vous avez peur d'oublier? Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez dans votre vie?
En partie, mais en partie seulement, comme on l'a déjà dit, et je crois que c'est important, même si ça peut avoir voir de prime abord l'apparence d'un paradoxe. L'oubli est indispensable, il peut même être salutaire, ne serait-ce que comme auxiliaire de la mémoire. Après tout, pour se rappeler quelque chose, il faut d'abord l'avoir oublié. Donc en ce sens, l'oubli joue un rôle qui est effectivement très très positif parfois, très très libérateur. Mais en même temps, il y a des choses dont il faut bien sûr conserver la mémoire. Et c'est une des missions, ça n'est pas la seule mission, mais c'est une des missions de l'historien.
De l'historien, oui. Et de l'écrivain et de la littérature.
Voilà,
On va revenir aussi sur ce point, on a beaucoup de choses à aborder. Annette Vivarka, est-ce que devenir historienne, c'était aussi une manière pour vous de lutter contre l'oubli ? Ou vous ne l'avez pas du tout conceptualisé comme ça quand vous vous êtes lancée dans cette mission ?
Certainement pas. Mais, et ça a à voir avec ce que Philippe Forest dit aussi. J'ai eu le sentiment à un moment donné de ma vie. Alors mon premier mouvement qui m'a porté vers l'histoire, c'était ce mouvement collectif de mai 68, c'est-à-dire cette imprégnation marxiste qui disait qu'il fallait connaître le monde pour le transformer et que l'histoire avait un sens, hein, qu'elle était vectorisée et que il fallait la connaître pour pouvoir jouer dessus. Ça, c'est mon premier mouvement. Et je me suis d'abord intéressé au communisme. Et puis, quand je suis rentré de Chine, que j'ai connu une révision déchirante, une grande crise, je me suis dit, mais c'est parce que il n'y a rien derrière moi. Je viens d'une famille qui a été très éprouvée par ce qu'on n'appelait pas à l'époque la Shoah. Donc, trois de mes grands-parents et un certain nombre de collatéraux qui ont disparu. Mais il n'y a pas simplement eu la Shoah, il y a eu la coupure de l'immigration. Donc il y a cette double rupture. Et j'ai pensé que si je me penchais sur cette histoire, ben moi j'irais mieux.
Ouais.
Voilà. Donc ça a été le mouvement qui a fait que j'ai commencé à travailler sur des questions qui m'ont occupé plusieurs dizaines d'années, en se détachant bien évidemment du déclencheur, parce qu'on reste pas 40 ans dans la même dans le même état d'esprit. Il y a une dynamique après qui se forme. Et je suis très sensible quand même à la disparition,
oui,
pour reprendre le titre du roman de Pérec. Oui. Et je pense que chaque être humain a envie quand même de laisser une trace. Et que cette disparition de gens, sans qu'on sache où, sans qu'on sache comment, en masse, oui, l'envie de retrouver des noms, oui, l'envie bon, qui a animé, je suis pas toute seule, hein, il y a eu tout un mouvement, bon... tout le travail qu'a fait Serge Klarsfeld, de retrouver les noms, de retrouver les photos. Oui, je pense que ça, c'est quelque chose qui continue à...
À vous animer.
Qui continue à m'animer, oui.
Et votre livre, Mes années chinoises, que vous avez publié cette année, c'est un peu aussi cette synthèse de ce que vous venez de dire, à savoir une expérience personnelle, votre expérience pendant 2 ans comme professeur en Chine, et puis ce regard d'historienne que vous portez sur cette période et sur ce pays. On a l'impression que les deux s'imbriquent et que... Il y a cette histoire d'oubli aussi. Je ne veux pas oublier cette période et je ne veux pas oublier cette période à titre personnel et à titre historique.
Oui, je pense que quand on a pratiqué un métier... Si vous voulez, je crois que la différence entre un historien professionnel, ce que je suis, et un romancier, par exemple, c'est qu'on a toujours le réflexe du collectif. Et je pense que je suis devenue historienne le jour où, après m'être intéressé à l'histoire de mon grand-père, après avoir voulu écrire cette histoire, à laquelle je suis en train de revenir maintenant, j'ai découvert les livres du souvenir, les Iskerbirer, oui, c'est-à-dire vraiment la mémoire collective quasiment à l'état pur, écrite par les survivants, et que j'ai bifurqué de cette histoire personnelle à une histoire collective en écrivant avec... un savant yiddishiste qui s'appelle Yitzhak Niborski, ce premier livre qui sont les livres du souvenir mémoriaux juifs de Pologne dans la collection Archives. Donc voilà, il y a toujours cette espèce de, je ne sais pas si c'était Mao de marcher sur les deux jambes, mais qui est l'individuel, mais comment cet individuel s'inscrit dans le collectif. Comment moi, en 68, je suis tout à la fois le produit de cette histoire individuelle, mais le produit du mouvement et de cette espèce de mirage qui a été pour tellement de gens, pas tout le monde, hein, mais pour beaucoup de gens, la révolution culturelle, la maolatrie, voilà. Donc il y a toujours cette chose-là, et que j'ai d'ailleurs constamment, c'est-à-dire que c'est une sorte de réflexe. Qu'est-ce qui, dans ce qui se passe, est de l'individuel et du collectif.
Alors on a choisi de poser une question plus poétique à nos auditeurs, encore que ce que vous venez de dire était empreint de poésie aussi. On leur a demandé ce qu'ils aimeraient ne jamais oublier. Vous pouvez nous répondre, vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 ou nous envoyer un mail ou même une note vocale. Il suffit de cliquer sur le bouton réagir de la page de l'émission L'été comme jamais via l'application ou le site. France Inter, le duo musical français pour une très belle chanson, Les Jolies Choses, extrait de leur le dernier album Cyclorama.
L'été comme jamais. Eva Rock sur France Inter.
L'été comme jamais poursuit son chemin dans les méandres de notre mémoire, une mémoire qui parfois disparaît. Amnésie totale, amnésie partielle, c'est le thème du mix réalisé par Juliette Medevielle. Dans vos oreilles, des extraits du film La maison du docteur Edwards, l'année dernière à Marianne Bad, des témoignages entendus sur France Info, sur France Culture, mais aussi l'œuvre de Zabou Breitman, Se souvenir des belles choses, ou encore Goodbye Lénine.
Le réveil de votre mère tient vraiment du miracle, mais il faut vous attendre, la trouver changée.
Ce qui veut dire ?
Eh bien, il peut arriver que les patients ne reconnaissent pas leurs enfants, amnésie.
Faites un effort. Quels sont les gens que vous avez connus ?
Oh, ça ne sert à rien.
Vous aviez une maison, une mère, vous aviez des amis, des parents.
Oui. Probablement une femme.
Vous souvenez-vous d'elle ?
Non. Je ne connais pas la suite, je ne vous connais pas. Je ne connais pas cette chambre, ce lit ridicule, cette cheminée avec son miroir.
Quel miroir ? Quelle cheminée ?
Je ne sais plus. Tout cela est faux, je ne sais plus.
J'ai tout oublié, oui.
mon enfance, mon adolescence, mon armée, mon mariage, tout.
Il y a un fond de tristesse permanent. On est tellement différent de ce qu'on a été que, ben, on est déstabilisé.
Parce que vous êtes le même, mais sans mémoire, sans histoire.
Et là, par exemple, je suis en train de perdre le fil de ce que j'étais en train de vous dire.
Tu connais l'histoire de l'ange de l'oubli ? Quand un bébé vient au monde, il connaît toute l'histoire de l'homme depuis la nuit des temps. Il est le gardien de la mémoire de l'humanité. Il sait tout. Et au moment où il va pour parler, l'ange de l'oubli arrive. Il pose son index sur la bouche du nouveau-né en disant « Chut !» Et le petit oublie tout. Il doit tout réapprendre. Voilà.
Philippe Forest, quand on entend ces extraits de films et ces témoignages, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la poésie dans cette notion d'oubli ? Je m'adresse au romancier que vous êtes.
Certainement, certainement. Je retiens surtout de ce qu'on a entendu l'extrait de l'année dernière à Marion Bad d'Alain Resnais sur un scénario de Rob Grier, oui, qui montre bien justement quel jeu se joue entre la mémoire et l'oubli, l'individuel et le collectif, on en a déjà parlé, mais aussi entre la mémoire et la fiction, parce que se rappeler quelque chose, c'est toujours le réinventer, c'est ce qui fait que la mémoire a aussi quelque chose de libérateur. Elle fait de nous les poètes de notre propre vie, ou les romanciers de notre propre vie, elle nous oblige à ne pas nous laisser enchaîner à notre passé, mais à toujours lui donner des formes nouvelles, et c'est un peu l'un des sujets de l'année dernière à Marion Bad, où on finit par ne plus trop savoir ce qui a été imaginé, ce qui a été véritablement vécu, parce que le propre de l'œuvre d'art, de l'œuvre littéraire ou cinématographique, c'est justement de nous faire ouvrir les yeux sur ce mouvement de vase communicant qui existe entre ce qui a été et ce que l'on invente, ce qu'on imagine.
Et ce qui est au cœur de votre réflexion dans votre livre,
oui,
L'oubli, est-ce que vous accepteriez de nous en lire les deux premières pages pour qu'on comprenne bien cette idée géniale que vous avez eue, moi qui aime beaucoup les incipits, là je dois dire que le vôtre entre dans mon panthéon de mes préférés. On vous écoute, ben
merci.
Forest.
Un matin, un mot m'a manqué. C'est ainsi que tout a commencé. Un mot, mais lequel je ne sais pas. Sinon, ce serait simple et je n'en parlerais plus, je dirais quel mot. Alors il me serait rendu, il reprendrait sa place parmi les autres, je n'en ferais pas une affaire. Tout aussitôt rentrerait dans l'ordre, je pourrais m'arrêter là, on passerait à la suite, il n'y aurait rien à raconter, il n'y aurait rien eu à raconter. Ce serait très bien. On a toujours intérêt à en dire aussi peu que possible, je crois. Ne pas se faire trop remarquer, si vous voulez mon avis. De ma vie, je n'ai jamais cherché d'histoire, elles sont simplement venues à moi les unes après les autres, d'elles-mêmes, et sans que j'y sois pour grand-chose. Pas très souvent, heureusement. Pourtant, c'est arrivé, une ou deux fois, peut-être un peu plus. Je pourrais compter les histoires dont je parle sur les doigts de mes deux mains. Combien, au juste, je ne me rappelle pas, disons pas précisément, ou bien je ne sais plus lesquelles j'ai oubliées aussi, du moins je préfère le penser. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y en a eu trop. Encore trop. On ne choisit pas. Le roman recommence. Il n'en finit pas, n'en a jamais fini de recommencer. Il ne vous laisse nulle part en paix, en tout cas, jamais pour très longtemps. Cela recommence. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, cela recommence.
Merci beaucoup Philippe Forest. Est-ce que vous vous souvenez de comment est née cette histoire du mot qui disparaît ?
Ben, un peu comme je le raconte, mais ouais, je crois que l'expérience est très banale. C'est effectivement un matin...
Ce mot qu'on a au bout de la langue et
voilà,
qu'on cherche, c'est ça ?
Exactement, je me suis réveillé un matin avec la vague impression d'avoir fait un rêve qui était à la fois très présent, mais dont, à mesure que j'essayais de le reconstituer, je m'apercevais qu'il avait déjà disparu, un peu comme du sable qui glisse entre les doigts. Et donc je me suis dit qu'au cœur de ce rêve, il devait y avoir un souvenir, un mot, mais j'étais incapable de dire lequel. Et puis à partir de là, j'ai monté toute une petite fable, une sorte de conte philosophique. Hein. Je ne me situe pas du tout sur le terrain sérieux qui est celui des médecins, des savants, des psychiatres, des psychologues. J'essaie simplement d'extrapoler à partir donc d'une expérience très très banale et d'en tirer quelque chose qui ressemble à une sorte de roman,
ouais,
disons.
Annette Wieworka, cette importance du mot, vous en parlez aussi dans Nos années chinoises. Vous racontez, quand vous décidez par exemple de traduire un texte pour vos étudiants ou quand vous décidez de faire un dictionnaire, on vous demande d'oublier des mots. Et d'oublier ces mots, c'est ne pas nommer le monde. On se retrouve avec le monde que les autorités vous imposent.
Là, on n'est pas dans le même mécanisme que celui de Philippe Forest. On est dans, j'ai envie de dire, dans 1984.
Oui.
C'est-à-dire que dans les régimes de type chinois du moment de la révolution culturelle, dont on aimerait penser qu'il est révolu, il y a une négation du réel. Or, la négation du réel, elle passe par le fait que on supprime les mots qui désignent ce réel. Donc, je suis sûr que parmi les anecdotes que je raconte, il y a cette histoire de dictionnaire qui a fait travailler tous les rares étrangers qui vivaient en Chine à l'époque. On faisait le dictionnaire, qui était le dictionnaire français-chinois, le dictionnaire allemand-chinois. Et l'exemple que je donne, c'est l'exemple du mot « prime ». Donc on le faisait à partir d'un dictionnaire, un petit Larousse, donc on avait une liste de mots. Donc il n'y a pas de prime, donc on supprime le mot prime. Même chose, il y avait soi-disant les suppressions des grades dans l'armée, c'est-à-dire des grades visibles pendant un temps sur les uniformes, donc on prétend qu'il n'y a pas de grade. Donc en fait, les mots, on parle de l'oubli des mots, mais on peut aussi parler de ces langues de bois qui s'installent, qui existent d'ailleurs chez nous aussi, hein, et je suis pas en train de dire qu'on est dans un pays totalitaire, hein, mais qui ont valeur d'interdiction dans les régimes totalitaires. Le mot qui est soit supprimé, soit qui est utilisé pour masquer la variété des réalités. Et le travail de l'historien aussi, j'ai écrit avec Séverine Niquel un livre d'entretien que j'ai appelé « L'heure d'exactitude ». Et c'est un emprunt à Marc Bloch. Oui. La question de trouver le mot juste,
bien sûr.
Et c'est quelque chose qui nous préoccupe quand nous écrivons, parce qu'il y a aussi un moment où l'histoire, elle s'écrit. Et la question du mot, alors il y a celui qu'on perd, mais il y a le mot, on est un peu comme avec un GPS, on est en train de chercher, on dit non, c'est pas celui-là, jusqu'au moment où on a le sentiment d'avoir trouvé vraiment le mot juste. Donc je crois que la question du mot, celui qu'on oublie, celui qui sert à masquer, et celui qu'on trouve vraiment adéquat à ce qu'on veut écrire, c'est une question très importante, oui.
Alors les auditeurs, eux aussi, ont peur de perdre les mots, c'est ce qu'ils nous disent. Ils ont peur de perdre le visage de leurs proches, leur voix de leurs proches. Et Francis Eustache, on a eu une question qui nous a été envoyée par Cyril, qui nous dit « J'ai eu un violent choc émotionnel à l'âge de 7 ans. Depuis, alors il a 58 ans aujourd'hui, il a tout oublié ce qu'il avait vécu avant l'âge de 6 ans. Il se demande si ses 6 premières années de vie ont été effacées de sa mémoire ou si elles sont seulement cachées, comme vous nous le disiez en ce début d'émission, Francis Eustache. »
Alors, là, la question est particulière parce que c'est une question qui porte sur l'enfance.
Oui.
Et l'enfant, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, en fait, on a peu de vrais souvenirs de notre enfance. On a des souvenirs qui commencent à se structurer au moment de la jeune adolescence. Mais en fait, auparavant, ce sont des bribes de souvenirs. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de mémoire. Au contraire, la période de l'enfance est une période où on construit beaucoup de choses, on apprend le langage, on apprend les relations avec les autres, et on apprend le fonctionnement du monde autour de soi. Par contre, la création de véritables souvenirs est beaucoup plus difficile parce que notre appareil mental, notre appareil cérébral n'est pas encore formé pour former des souvenirs tels qu'on les conçoit nous en tant qu'adultes, c'est-à-dire avec un contexte très précis, l'espace, le temps, les événements organisés par rapport aux autres, etc. Donc la question que vous posez via l'auditeur, certes, on peut oublier une partie de son passé, mais dans le contexte précis, il faut faire référence à cette amnésie qu'on a tous,
oui, oui.
Qui est l'amnésie infantile.
Alors, vous pouvez continuer à nous poser des questions, nous appeler au 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous envoyer un mail ou une note vocale. C'est sur la page de l'émission L'été comme jamais, sur le site ou l'application de France Inter.
Find it hard to sit with me tonight. I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine.
La musique douce du groupe indie pop britannique London Grammar et le titre Wasting My Young Years, c'était sur France Inter. Lutter contre l'oubli dans nos vies et dans l'histoire, c'est le thème de ce numéro de L'été comme jamais. Vous êtes très nombreux à nous écrire. Je voudrais citer quelques messages que je trouve très beaux. Quelqu'un nous dit « Je ne voudrais jamais oublier le rire de ma maman ». Thomas nous dit « Je voudrais ne jamais oublier que j'existe ». Delphine « Ne jamais oublier les premiers instants de rencontre avec ma fille à sa naissance, les premières secondes magiques de la naissance ». Lutter contre l'oubli donc, et construire aussi l'oubli dans cette histoire. Je voudrais vous faire écouter un extrait.
The time for the healing of the wounds.
Le temps est venu de guérir les blessures.
The moment to bridge.
Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent.
Has come. The time to build.
Le temps de la construction est devant nous. Nous devons pour cela agir ensemble, en peuple uni, pour la réconciliation nationale, pour la construction de la nation, pour la naissance d'un nouveau monde.
Nous venons d'entendre un extrait du discours d'investiture de Nelson Mandela. C'était le 10 mai 1994. Le nouveau président de l'Afrique du Sud célébrait alors la fin de l'apartheid. Deux ans plus tard, la commission de la vérité et de la réconciliation débutait un travail de recueil de témoignages. Annette Vivorca, est-ce que ce genre de commission, est-ce que les grands procès aussi sont des moyens de lutte contre l'oubli?
Alors, je pense qu'il faut regarder un peu les situations.
Oui.
Le souci de Mandela, c'est que la fin de l'apartheid ne se marque pas par un bain de sang. Donc comment faire pour vivre ensemble après des événements aussi violents où une minorité a opprimé et maltraité, le terme est faible, la majorité. Donc ça, c'est le souci de Mandela. C'est un peu le même souci au Rwanda.
Oui.
Comment faire pour que Hutu et Tutsi puissent de nouveau vivre ensemble après le génocide des Tutsi par les Hutus. C'est aussi le souci de la justice qui se fait dans l'après-guerre avec les procès de Nuremberg et puis les différentes procédures, l'épuration en France. Voilà. Donc là, on a affaire à une justice ou à des processus transitionnels qui, en fait, ne sont pas liés à la mémoire,
oui.
Telle qu'on a beaucoup discuté sur la mémoire collective, mais qui sont liés à la nécessité d'une transition. Et cette transition, elle peut être fondée aussi sur l'oubli. Hein, c'est ce qui s'est passé, par exemple, en Espagne, avec après le franquisme. Alors, on a ensuite les grands procès éducatifs.
Oui.
Barbie Touvier-Papon, par exemple, en France, dont l'idée, c'est à la fois d'affirmer qu'il y a des crimes qui ne peuvent pas être oubliés, qui sont donc imprescriptibles, qui peuvent être punissables jusqu'à la mort du coupable, et en même temps qui ont comme but principal de donner une leçon d'histoire, oui. Et de maintenir vivante la mémoire des événements du passé.
Depuis quand l'expression « devoir de mémoire » existe ?
On le sait, elle existe probablement très tôt après la guerre.
Oui.
Elle est liée au « plus jamais ça ». Par exemple, aux serments qui ont été faits dans les camps, que ça ne se reproduira pas. Mais sa vraie diffusion, c'est le procès de Klaus Barbie, en 1987, qui a popularisé une expression que tous les historiens récusent, que Paul Ricoeur a stigmatisé en disant qu'il ne peut pas y avoir de devoir de mémoire, parce que la mémoire, elle n'obéit pas.
Eh oui.
À un devoir. Les mécanismes de la mémoire, que ce soit la mémoire individuelle, et la mémoire collective, qui n'est pas la somme des mémoires individuelles, elles obéissent, ces mécanismes obéissent à d'autres choses. Et d'ailleurs, chacun d'entre nous peut exactement, aujourd'hui, s'il est attentif, voir qu'est-ce qui fait qu'il va se souvenir de telle ou telle chose, par une odeur, par une couleur, par une sensation, ou par une évocation. Donc c'est jamais un devoir. En revanche, on peut dire qu'il y a un devoir d'éducation, on peut dire qu'il y a un devoir d'enseignement de l'histoire, mais certainement pas de mémoire.
Alors je voudrais qu'on donne la parole à Francis Eustache, parce que Francis, vous travaillez beaucoup sur la différence entre mémoire individuelle et mémoire collective. Actuellement, vous menez un programme de recherche pluridisciplinaire qui vise à étudier la construction et l'évolution de la mémoire après les attentats du 13 novembre 2015. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi consiste cette étude ?
Oui, c'est une étude que nous avons lancée avec un historien, Denis Péchanski, qui est au départ spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, et puis un jeune neuroscientifique qui s'appelle Pierre Gagnepin, qui travaille dans mon unité de recherche à Caen. Et pour le 13 novembre, nous avons commencé dès 2016 à recueillir des témoignages d'à peu près un millier de personnes qui étaient plus ou moins proches des attentats. Et puis pour 200 d'entre eux, 200 participants viennent à Caen dans mon laboratoire pour bénéficier de différents examens à la fois sur le plan de la mémoire, mémoire individuelle, et puis sur le plan d'examen du cerveau. Et nous suivons ces personnes à espace répété, donc dans un premier temps en 2016, en 2018, et puis là nous allons à nouveau les accueillir au sein du laboratoire à l'automne si la situation le permet. Donc, ce qui est important dans ce programme, c'est d'essayer de comprendre, la volonté, c'est d'essayer de comprendre comment se construisent et comment évoluent les mémoires à la fois collectives de cet événement très important pour notre pays et au-delà, et puis comment ces mémoires se construisent chez les individus qui étaient au plus proche et qui, pour certains d'entre eux, ont développé des pathologies comme le trouble de stress post-traumatique. Alors, ça, ce sont des différentes études qui sont coordonnées les unes avec les autres, qui produisent un certain nombre de résultats, notamment sur les mécanismes, justement, de l'oubli, qui permettent de mettre à distance chez les personnes qui souffrent, chez les blessés psychiques, qui permettent de mettre à distance ce qu'on appelle les intrusions. Les intrusions ne sont pas des vrais souvenirs, mais sont des éléments qui appartiennent à l'événement traumatique. Ça peut être des bruits, ça peut être des images, ça peut être des odeurs, etc. Donc les mécanismes qui permettent de les mettre à distance, de les inhiber, et comment on peut aider ces personnes à être plus efficaces par rapport à leur à ces mémoires toxiques, en quelque sorte.
Oui.
Et puis, peut-être le point le plus original et le plus intéressant de ce programme, c'est comment on peut rassembler, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de comprendre d'une part la construction de la mémoire collective, par exemple le Bataclan qui va devenir un peu le porte-étendard de l'ensemble des événements. Bien sûr, ça c'est très important de le considérer. C'est important de comprendre également la mémoire de chaque personne qui a été confrontée à l'événement traumatique. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, alors ce sont les études les plus difficiles à faire, c'est comment ces mémoires interagissent.
Et oui, entre la mémoire collective et les mémoires individuelles, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Et comment l'une peut secourir l'autre. Ça, je pense que c'est vraiment important. C'est quelque chose que j'ai vraiment appris de ces travaux, à savoir que l'individu qui souffre, l'individu blessé psychique qui a été confronté à ces attentats terribles, va en fait être secouru par une mémoire collective qui s'écrit autour de lui. Et c'est très important qu'on ait conscience, nous, dans la société, de ce poids très important, de cette aide très importante qu'on peut apporter à ces personnes, bah, dans nos comportements, dans nos actes, dans nos paroles. Et peut-être que le message très important, c'est que ce qui va être salutaire, ce qui va conduire à une forme de résilience, hein, même si j'aime pas trop ce terme, ce qui va conduire à cette résilience, c'est le fait que la personne se sente reconnue par cette mémoire collective.
Alors, je voudrais qu'on prenne Araxi qui vient de nous appeler. Bonjour Araxi.
Bonjour madame.
Je crois que vous vouliez nous raconter une période de votre vie. C'était en mai 68, c'est ça ?
J'ai commencé ma vie à Paris en mai 70, mais c'est mon époux qui m'a replongé dans mai 68 parce que tout au long de sa vie, il est décédé malheureusement là il y a moins d'un an, et il m'a parlé de mai 68. Étant donné qu'il a été un témoin anonyme des rues de Paris, et je pense que effacer cette période de la mémoire collective est très néfaste, puisque cela fait partie de l'histoire et que certaines paroles et images doivent rester dans notre mémoire collective et non l'effacer.
Merci beaucoup, on sent que vous êtes très ému, Araxi, merci infiniment. Philippe Fourest, le romancier que vous êtes, vous portez quel regard sur le travail des historiens et sur cette notion d'oubli ?
Je pense qu'il n'y a pas... Enfin, bien sûr, il y a une différence entre le travail de l'historien et le travail du romancier.
Bien sûr.
Mais je pense qu'il n'y a pas de différence essentielle ou insurmontable. Il y a un historien qui s'appelle Paul Venn qui a écrit là-dessus il y a longtemps et qui définissait l'histoire comme un roman vrai. Alors bien sûr, la différence est importante entre un roman vrai et un roman faux, mais le romancier aussi, il vise à une certaine forme de vérité. Raconter, c'est toujours transformer en fiction ce qui a été, alors avec des règles différentes qui s'imposent à l'écrivain.
Bien sûr.
Et qui s'impose différemment à l'historien, mais on est du côté de cette remémoration, de cette fabulation, qui, dans la fidélité au passé, bien sûr, c'est essentiel, hein, nous tourne malgré tout constamment vers le présent, vers l'avenir. Il y a un texte qui est pour moi très important, qui est un livre du philosophe danois Kierkegaard, qui s'intitule « La reprise », dans lequel Kierkegaard oppose la réminiscence, qui nous tourne vers le passé, alors de façon un peu nostalgique, régressive parfois, à ce qu'il appelle la reprise et qu'il définit comme un souvenir en avant. Voilà, bah, l'historien, le romancier, ils doivent bien sûr être soucieux du souvenir dont ils sont les dépositaires, mais toujours dans la volonté de projeter ce souvenir vers l'avant, de le réinventer, parce que le passé ne vaut que pour le présent qui est le nôtre.
De circonstances signées du groupe australien Parcells sur France Inter. Je vous propose de garder en mémoire tous les mots qui ont été prononcés par nos invités. Cette émission était beaucoup trop courte. Francis Eustache, vous étiez en direct depuis le studio de nos confrères de France Bleu Cotentin. Merci de nous avoir éclairés sur les mécanismes de l'oubli et de la mémoire. Merci, merci Philippe Forest d'avoir accepté notre invitation. Votre livre, L'oubli, est édité chez Gallimard, tout comme votre dernier ouvrage, Napoléon, La fin et le recommencement. Et un immense merci Agnette Vivorca, c'est un honneur de vous recevoir, de vous entendre. Je conseille tous vos livres en fait, hein, mais notamment Mes années chinoises. Édité chez Stock. N'hésitez pas à vous emparer d'un autre livre pour prolonger cette thématique, celui de Julien Dufresne-Lamy, intitulé 907 fois Camille et qui vient de sortir chez Plon. C'est ma recommandation du jour. L'histoire vraie de Camille, fille de Dodo la Saumure. Comment se construire quand l'histoire de sa famille s'est bâtie sur des mensonges, des secrets et beaucoup d'oubli? Comment trouver sa place en tant qu'écrivain aussi quand le sujet de son livre s'avère être une amie proche? C'est un récit captivant. Un grand merci à l'équipe de L'été comme jamais, Juliette Medevielle à la réalisation, Florian Dorimini à la technique, Margot Page, Anna Massardier et Marie-Aubert à la préparation, Muriel Pérez à la programmation musicale. Demain à 9h sur France Inter, je vous propose de ranger et vider nos placards avec un thème, et si on se dépouillait. En attendant, philosophons avec Charles Pépin et son invité, l'écrivain et réalisateur David Fuenquinos. Ensemble, ils vont tenter de répondre à la question, faut-il réaliser ses fantasmes ?